Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
You should marry me, I know you don't agree. There's no two ways about it.
Bonjour, la saison des mariages a commencé encore ralentie par les restrictions sanitaires. Avec la pandémie, les couples qui ont eu peur d'être séparés par les confinements ou qui n'ont tout simplement pas pu se marier en raison des files d'attente dans les états civils de leur propre pays, ces couples ont afflué en très grand nombre à Gibraltar. Le rocher britannique au sud de l'Espagne est un peu le Las Vegas européen. Formalité simple et rapide et un contrat de mariage reconnu dans le monde entier. Selon les statistiques, 85% des mariages de Gibraltar sont célébrés entre deux étrangers. C'est un tourisme florissant, d'autant que le territoire britannique est un des seuls territoires européens sur la liste verte sans Covid. C'est un reportage de Frédéric Lebel.
Impossible de rater la salle des mariages de Gibraltar. Derrière l'imposante demeure du gouverneur, les confettis et les petits cœurs rouges en papier qui jonchent le trottoir vous guident dans la ruelle où patientent tous les couples. 20 mariages par jour, le rythme est soutenu. Les candidats étrangers sont nombreux, seul un passeport et un acte de naissance sont requis et une nuit sur place. Ce midi-là, Krunoslav, croate, et Fabio, brésilien, 26 et 27 ans, sont venus directement d'Irlande où ils vivent ensemble depuis un an.
À cause du virus, c'était compliqué. Le Brésil était sur la liste rouge. Si Fabio avait dû repartir chez lui, il n'aurait pas pu revenir ensuite en Irlande. On avait bien prévu un mariage à Dublin, mais ça a été repoussé et repoussé encore. Alors, on a préféré aller ailleurs.
Destination Le Rocher et la salle d'état civil. Devant le portrait pastel de la reine Elisabeth accroché au mur, la cérémonie est bien rodée.
We have all signed the register. And all that is left is for me to wish you all the very best in your future life together. Congratulations to you.
Sherin, de l'agence de voyage spécialisée, appose sa signature aux côtés de la mienne. Nous sommes les deux témoins de cette cérémonie minimaliste, avec masque. Pour la photo, l'officier d'état civil a sa petite blague. Il préconise le smizing, autant dire le smile, le sourire avec les yeux. 15 minutes plus tard, bague au doigt, Kouroslav et Fabio savourent le moment.
Je me sens très, très heureux et très chanceux. C'est tellement sympa ici. Et puis, le temps est vraiment merveilleux. Ça donne quelque chose de spécial comparé à l'Irlande, où on se gèle, où il fait toujours froid et pluvieux.
Je suis encore nerveux, mais je suis heureux, car je suis avec l'amour de ma vie.
Dans 3 semaines, ils recevront leur contrat de mariage. Fabio, dont le visa arrive à expiration, ne risque plus d'être expulsé vers le Brésil. Avec la pandémie, la demande pour des cérémonies express s'est faite parfois très pressante, raconte Sharon Cantrell, qui travaille pour le tour opérateur Rock Occasion.
Évidemment, il y a tous ceux qui voulaient être ensemble parce que le confinement arrivait dans leur pays et qu'il fallait régler les problèmes de visa. Alors on a eu des coups de fil assez désespérés de tous ceux qui craignaient de passer les 9 prochains mois sans leur fiancé. L'émotion était très forte. Il a fallu leur trouver un vol dans le bon aéroport pour que ce soit le plus magique possible et le plus romantique. Et c'était chouette de faire ça pour ces couples.
Avec les pubs anglais de Main Street et les côtes marocaines à 1 heure de bateau, les mariages internationaux sont devenus un des points forts touristiques de Gibraltar. En 1969, déjà, John Lennon et Yoko Ono avaient fait le voyage. Les jeunes mariés, elle en mini-jupe, lui en smoking blanc, sont venus apporter au rituel leurs notes très stylées.
Leur photo de mariage avec le rocher en toile de fond, c'est une photo qui est vraiment très demandée, oui. Je crois qu'il y a une certaine magie. Certaines personnes ne savent pas du tout où elles vont atterrir. Et elles sont surprises de voir aussi ce décor avec le Maroc et Sidi Moussa, qui est aussi très bien pour les photos. Ça a son charme. On est une société très accueillante, très multiculturelle, et puis on a généralement une bonne météo, le soleil brille.
Dans les forfaits proposés par son agence, on trouve de tout. Une cérémonie au jardin botanique ou dans l'ancienne bibliothèque Garrison, des tours en yacht ou en hélicoptère et bien sûr l'incontournable restaurant sur la marina devant les bateaux. Charmaine et Ezekiel sont sur leur 31, tous de blanc vêtus. C'est ici que ces deux jeunes Philippins expatriés en Angleterre ont pu réaliser leur rêve.
On avait prévu de se marier aux Philippines parce que c'est chez nous. Mais ensuite, comme on ne pouvait pas revenir, on s'est dit qu'on allait se marier au Royaume-Uni. Mais ils ont eu tellement de retard avec le Covid qu'il y a embouteillage et il y a beaucoup d'attentes pour se marier. Alors on a regardé sur Internet, on a vu que des gens connus, des musiciens, étaient venus se marier ici. Et puis Gibraltar est sur la green list maintenant, sans Covid. C'est bien pour nous. On a fait un Facebook Live, si bien que notre famille et nos amis étaient avec nous. Même s'ils sont à des milliers de kilomètres, on peut ressentir leur amour.
Les deux jeunes entrepreneurs sont des amis d'enfance. Ils se connaissent depuis l'âge de 14 ans, autant dire une éternité. Alors pourquoi tant de précipitation ?
Parce qu'on veut un bébé.
That's it.
On est chrétien et on ne veut pas vivre ensemble avant d'être marié.
Et il est pour quand ce bébé ?
Peut-être ce soir.
Les mariages sont en baisse dans toute l'Europe avec la pandémie, mais au-delà du Covid, c'est une tendance sur le long terme. Sur le continent, on se marie de moins en moins. Autre enseignement de la statistique, en Italie en 2019, 17% des mariages célébrés, presque 1 sur 5, étaient composés d'au moins un étranger. Des mariages mixtes, pas du tout pris en compte par la classe politique et encore moins par l'extrême droite qui n'en finit pas de célébrer l'identité nationale. Franceline Beretti.
La part des unions avec au moins un étranger augmente tout doucement depuis le début des années 2000, avec des exceptions au moment de la crise économique de 2010. Quand une femme italienne se marie avec un étranger, c'est d'abord un Marocain, puis un Albanais. Quand un homme italien se marie avec une étrangère, elle est d'abord roumaine, puis ukrainienne. Ces mélanges illustrent l'origine des travailleurs et des travailleuses immigrées. On ne se marie donc pas pareil partout. Toutes les régions du Sud sont en dessous de la moyenne nationale de 17% de mariages mixtes et dans les régions où les vagues migratoires sont plus anciennes, comme la Lombardie, la Toscane ou la Vénétie, les mariages mixtes sont plus fréquents, jusqu'à 1 sur 4. Dans la province de Bolzano, près de la Suisse et de l'Autriche, on monte même à 1 sur 3. La maîtrise de l'allemand par les Italiens de la région aide probablement à élargir le marché matrimonial.
Finalement, Franceline, ces statistiques donnent l'image d'un pays qui se mélange culturellement.
Oui, mais c'est une réalité qui n'est pas du tout racontée aux Italiens. La droite nationaliste est très haut dans les sondages, cette droite qui défend l'idée d'une italianité fermée et exclusive qui remonterait à l'Empire romain et qui est une création politique plus qu'une réalité culturelle. Ces nouvelles familles italiennes ont plusieurs pays de référence. Si elles ont des enfants, ils grandiront peut-être avec plusieurs langues, l'arabe, l'albanais, le roumain, l'ukrainien, en plus de l'italien. Mais plutôt que d'être mise en évidence comme une ressource, cette diversité est passée sous le silence, comme si personne, politiquement, ne savait quoi en faire.
Your cheese board will be blue with that Rockford and Camembert.
When you can't find us a menu,
you won't, because it isn't there.
When you smell a faint regret,
instead of fine order cologne,
you only have yourself to blame for dining all alone.
No, you can't eat a la mode without le français.
You'll have to scoff it all off one big plate.
Des mariages et un divorce il y a 6 mois. C'était la sortie effective du Royaume-Uni de l'Union européenne, le Brexit. À l'heure du déconfinement, beaucoup de restaurants européens découvrent seulement aujourd'hui les conséquences de ce Brexit, car ils étaient restés fermés depuis la mi-décembre à cause de la pandémie. Marie Billon est allée à la rencontre de restaurateurs français qui vont devoir de nouveau s'adapter.
Charles Le Pelletier a rouvert son restaurant le 17 mai. Il tient le Garrick, un établissement français dans le quartier de Covent Garden, au centre de Londres, depuis bientôt 10 ans. Et pourtant, il a rouvert un peu à l'aveugle, ne sachant pas si les clients viendraient en nombre à la sortie du confinement, mais aussi à cause du monde post-Brexit dans lequel il a rouvert ses portes.
Aujourd'hui, personne ne connaît l'impact réel de Brexit, pour une raison simple, c'est que de par les restaurants et les hôtels fermés, les importations de produits sont restées très très limitées. Aujourd'hui, les niveaux de produits importés, notamment pour les restaurants, pour les hôtels très spécifiques, vont être multipliés par 15, par 20 dans les semaines qui viennent. Je pense que c'est maintenant que les vrais problèmes ont commencé.
On n'a pas revu de files de camions interminables comme on avait pu les observer début janvier. Les douanes britanniques ont eu presque 6 mois pour s'adapter, mais elles ne sont pas encore au point, dit Charles.
Alors, les problèmes à la frontière sont essentiellement des problèmes... Il y a une partie qui est liée à l'augmentation des volumes, mais ça, c'est juste une toute petite partie. La partie principale, c'est une partie administrative, à savoir que les vins ont été reçus en Angleterre, ils sont au Wine Exchange, mais les vins ne peuvent pas quitter l'entrepôt tant que la paperasse n'a pas été signée. Ils n'ont pas suffisamment d'agents certifiés pour vérifier l'arrivée des produits et les valider.
C'est ce que l'un de ses fournisseurs a expliqué à Charles, qui s'attend à avoir des pénuries de produits à cause de ça. Mais tout ça a aussi un impact sur les coûts fixes du restaurateur.
Les augmentations de prix sont essentiellement liées à des coûts administratifs. En ce qui concerne les prix d'achat nourriture, puisque tous nos canards, tous nos fromages, tous nos jambons viennent de France, tous nos escargots, on est juste en train d'identifier les augmentations de prix. Elles sont pour l'instant très très limitées.
Charles discute justement de ses soucis d'exportateur avec un autre restaurateur français installé à quelques encablures, le Beaujolais. Et les coûts en plus, Samantha et Pascal, la manager et le sommelier du Beaujolais, les ont déjà identifiés.
Les prix du fromage par exemple, c'est plus le même coût. C'est-à-dire qu'on prend du comté qui vient de Savoie, les tomes, on prie de 3 livres. Pour nous, c'est énorme. Quand on en commande 30, 40, voilà. Bah c'est ça fois 30 ou 40.
Samantha et Pascal ont refait une nouvelle carte pour la réouverture en avril en restant prêts à l'adapter selon les remarques, les désirs des clients mais aussi leur nombre. Mais quand Samantha a publié le menu sur les réseaux sociaux, les retours ne se sont pas fait attendre. Trop cher.
Oui. Le Brexit a énormément d'impact sur nos prix aujourd'hui. Il faut savoir que tous nos fromages, les charcuteries et autres, viennent de France. On n'a pas pris moins cher, on n'a pas changé, mais forcément nos prix ont un petit peu augmenté.
Certains de vins que nous avions en tant que tête de liste ont pris entre 10 et 20%.
Non, vous allez garder des menus pour vous au cas où.
La flexibilité, c'est le maître mot du secteur de la restauration tenaillé entre Covid et Brexit, car le pouvoir d'achat des clients a aussi baissé avec la crise sanitaire, reconnaît Samantha. Alors, même si le plaisir de ressortir peut l'emporter au début, l'important pour ces entreprises, c'est que la reprise soit durable.
Le Premier ministre tchèque dans la tourmente, Andrej Babiš, l'homme politique milliardaire, est accusé de conflit d'intérêts par l'opposition à Prague, mais aussi par les députés européens qui menacent désormais de faire cesser le versement de subventions au chef d'un gouvernement qui pourrait en profiter personnellement. Alexis Rosenzweig.
Le cas Andrej Babiš n'est pas nouveau. Cela fait déjà plusieurs années que ses actifs font l'objet d'audits à l'échelle nationale et à l'échelle européenne. Mais la pression a récemment augmenté d'un cran après la confirmation de son conflit d'intérêts par un audit de la Commission européenne qui conclut que l'actuel chef du gouvernement tchèque est bien le bénéficiaire du conglomérat Agrofert, un conglomérat fondé par Andrej Babiš dans les années 90 et placé dans des fonds fiduciaires à son arrivée au pouvoir. La commission du contrôle budgétaire du Parlement européen estime que l'influence du Premier ministre est telle que les principes de l'état de droit sont menacés en Tchéquie et qu'une enquête devrait être ouverte. Les milliardaires ne devraient plus avoir la possibilité de recevoir des centaines de millions de subventions de l'Union européenne, selon une eurodéputée allemande du Parti populaire européen. Agrofert est présent dans de nombreux domaines, de l'agrochimie à la presse, en passant par la fécondation in vitro. Classée troisième plus grosse fortune du pays, Andrej Babiš accuse l'Union européenne d'ingérence à chaque fois que son conflit d'intérêts est dénoncé, affirmant qu'il s'est mis en conformité avec la loi tchèque adoptée en 2017 expressément pour régler son cas. Andrej Babiš est par ailleurs suspecté par la police tchèque d'avoir indûment perçu des fonds européens pour un complexe touristique de luxe près de Prague. L'affaire n'est pas nouvelle non plus, mais elle vient de rebondir en cette fin de mandat qui s'annonce laborieuse s'il parvient à rester au pouvoir jusqu'aux élections prévues en octobre.
C'est le feuilleton en Turquie. Dans des vidéos mises en ligne depuis début mai, un chef mafieux, Sedat Peker, accuse des hommes politiques de premier plan d'entretenir des liens troubles avec la pègre. Des révélations qui ébranlent le pouvoir. Les autorités ont d'ailleurs émis un mandat d'arrêt contre lui. Portrait de Sedat Peker, figure du crime organisé, avec Anissa El-Jabri.
Avec ses chemises ouvertes jusqu'au milieu du torse, sa grosse chaîne avec médaille en or, ses bagues voyantes au doigt, le regard dur et le sourire narquois, Sedat Peker incarne jusqu'au bout des ongles son personnage de chef de clan de la mafia. Caché quelque part au Moyen-Orient, l'homme prend un plaisir visible à soigner la mise en scène de ses révélations, ménage ses effets, menace à la clé à la fin de chaque épisode.
Je vais encore vous faire souffrir et ô combien. Vous savez ce que vous m'avez fait, ça ne se fait pas, vraiment. Mais vous avez réveillé le géant endormi. Et je vous promets par Dieu que nous nous retrouverons. Au nom du Tout-Puissant, nous nous retrouverons.
Tabassage et meurtre de journalistes, viol, trafic de drogue international, transfert d'armes illégales, extorsion, corruption, des dossiers déjà déballés et la promesse d'autres sur ses anciens amis qui l'ont contraint à la fuite. Mais ce qui tient surtout la Turquie en haleine, ce sont les accusations qui visent tout particulièrement le premier cercle du président, son gendre, le fils de l'ex-premier ministre, l'ex et surtout l'actuel ministre de l'Intérieur.
Hey, Suleymane.
Ah, Suleyman, ah, regarde comment le peuple t'a enterré. Face à moi qui suis chef du crime organisé, le sondage d'opinion fait par ton parti ne t'attribue que 9% de soutien. Tu n'as aucune envergure. Tu menaces à la télévision, tu continues de menacer à droite, à gauche, mais quand tout se saura sur toi, ils te pendront. Car que te reste-t-il comme pouvoir ?
Le pouvoir, Sedat Peker connaît, ils sont nombreux ceux qui l'ont croisé dans les arcanes de l'AKP, le parti du président. Sümbül Kaya, chercheur à l'Institut français d'études anatoliennes.
Il a participé à plusieurs congrès de l'AKP et par exemple, lorsqu'il y a eu une affaire de la pétition de la paix, une pétition pour s'opposer au combat dans le sud-est de la Turquie, il a pris position en disant que c'était des pseudo-intellectuels, ces académiciens et qu'il allait faire couler leur sang. Se baigner avec.
Banditisme, violence verbale et physique, positionnement politique marqué très à droite, un mélange sulfureux qui plaît beaucoup à certains.
Dans les commentaires, on voit que les gens le vénèrent, l'encouragent à continuer. Il a aussi un fan club.
Ce que les Turcs regardent aussi comme une série télévisée à suspense, c'est aussi le signe de conflit au sein des élites. C'est en tout cas l'analyse d'Ahmet İnsel, économiste et auteur de l'ouvrage « La nouvelle Turquie d'Erdogan ».
Les révélations de Sedat Peker sont des révélations qui, évidemment, ébranlent énormément le pouvoir et montrent qu'il y a une lutte intestine dans le pouvoir. C'est surtout ça. Et je dirais même plus, il y a une lutte pour le partage du butin des organisations clandestines illégales de trafic. La prétention du parti de Tayyip Erdogan, c'est le parti d'être propre. Et là, on voit bien qu'ils sont totalement jusqu'au cou dans des affaires extrêmement louches. Alors, ça décrédibilise évidemment Tayyip Erdogan.
Jamais visé par les attaques de Sedat Peker, qui dit être un admirateur du président, Recep Tayyip Erdogan est sorti de son silence cette semaine. Les attaques subies par le ministre de l'Intérieur sont à ses yeux des attaques contre le pays. Toutes les personnalités visées ont démenti. L'opposition demande une commission d'enquête. Sedat Peker, lui, continue ses vidéos en forme de supplice chinois.
Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. Vous retrouvez le podcast de l'émission sur RFI.fr ou sur votre plateforme préférée. À bientôt.